Bonjour, chers amis de Radio Ville-Marie. Bienvenue à cette émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour, Francine.
Bonjour, Claude.
Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le récit de la résurrection de Lazare, qui est au chapitre 11 de l'Évangile de Saint Jean. Comme le récit est très long, je me permets de le résumer en quatre étapes. La première étape, Jésus et ses disciples sont en dehors de la Judée. Marthe et Marie lui font savoir que leur frère Lazare est malade. Jésus attend 2 jours avant de venir et annonce aux disciples que Lazare est mort. Deuxième étape, Jésus arrive à Béthanie. Marthe lui reproche de ne pas être venu à temps pour guérir Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Jésus engage Marthe dans un dialogue qui conduit à la confession de foi la plus complexe des évangiles. Troisième étape, Jésus rencontre ensuite Marie et ceux qui l'accompagnent. Même reproche, Jésus aurait pu empêcher la mort de Lazare. Jésus est profondément troublé par le chagrin de Marie. Enfin, quatrième étape, il arrive au tombeau et il pleure. Il ordonne d'ôter la pierre, il rend grâce à Dieu et appelle Lazare. Lazare sort, enveloppé de bandelettes, et Jésus ordonne qu'on le laisse aller.
Alors, comme vous voyez, le titre « La résurrection de Lazare » ne vaut que pour la quatrième étape, pourrait-on dire. C'est évidemment de cette étape que tout le monde se souvient le mieux, qui fournit la plus belle image et qui est, à toutes fins utiles, le passage le plus sensationnel, pourrait-on dire, de ce long chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Donc, on focalise sur Lazare, sur la résurrection, exactement comme feraient aujourd'hui les caméras de télévision et les journalistes. Hein. J'aimerais faire comme 2 remarques générales à partir de ce titre et cette focalisation. D'abord, on se concentre sur Lazare, mais on l'a vu avec votre rappel des grandes étapes, le récit présente beaucoup d'autres personnages. Et ces autres personnages sont tous en interaction avec Jésus, ce qui n'est pas le cas de Lazare. C'est assez étrange, hein? On dit 3 fois que Jésus aime Lazare, mais il ne se passe rien entre les deux. Il n'y a pas de retrouvailles, s'il y a une relation, ça va être après. Ils ne se parlent pas. Lazare est le seul personnage complètement muet, si bien que c'est un peu frustrant là. Si on veut, pour plusieurs aujourd'hui, l'entendre raconter ce qui se passe au juste après la mort, finalement on n'en sait rien. Donc il y a là un choix du narrateur. Hein, le silence de Lazare nous laisse devant la mort comme devant un mur qu'on ne va pas franchir.
Il y a une absence d'explication.
Il y a une absence complète et le récit nous invite à concentrer un peu moins sur Lazare et à faire un peu plus attention aux autres personnages qui sont en dialogue avec Jésus.
Ça veut dire que les dialogues sont importants.
Je le pense, oui. Mm-hmm. Comme toujours dans les évangiles, ils sont un lieu privilégié pour donner le sens de ce qui se passe, alors que nous, on focalise sur ce qui se passe. Deuxième remarque générale, toujours à partir du titre, on appelle ça la résurrection de Lazare, ce qui est pertinent, mais le récit parle beaucoup de la mort aussi et présente diverses manières dont les personnages se positionnent face à la mort. Et donc, on sera invité à réfléchir là-dessus. Au fond, ces 2 remarques nous invitent, je dirais, à déplacer le regard de l'événement sensationnel relèvement de Lazare vers les personnages, les dialogues et la signification qui est travaillée dans ces dialogues-là. On se rappelle, comme on disait la semaine dernière, que Jean désigne ce que nous on appelle miracle par le mot « signe ». Il préfère le mot « signe ». Un signe, pour dire une tautologie, ça signifie autre chose. Ou on peut dire autrement, un signe, ça pointe hein, vers autre chose, un peu comme le doigt qui pointe vers la lune.
Ah oui, comme disait Confucius
hein, oui, dont vous nous parliez la semaine dernière.
Fixer toute son attention sur le relèvement de Lazare, c'est peut-être regarder le doigt qui nous montre la lune au lieu de regarder la lune.
Oui, c'est ce que je pense en tout cas, et c'est ce que je vais vous proposer, qu'on arrête de regarder uniquement le doigt résurrection de Lazare. Puisque le relèvement de Lazare va être indiqué comme le dernier signe produit par Jésus, ça revient au chapitre 12, verset 18, on s'attachera vraiment à la signification plutôt qu'à l'événement.
Et puis là, je vois que le mot « relever »,« relèvement », vous l'utilisez...
Oui, volontiers.
Une question de vocabulaire, là.
Oui, hein? Oui, c'est le mot grec qui est là, « anistémie » pour « relever »,« anastasis » pour « relèvement », que l'on traduit aussi par « ressuscité » et « résurrection ». Il n'y a pas de mot grec pour « résurrection » ni pour « ressuscité ». C'est parfois « réveillé », parfois « relevé ». Dans le récit qu'on a, c'est toujours « relevé » et « relèvement ». Donc, ça n'affaiblit pas le sens que je dise ça. Alors, parfois, je parle de l'un ou l'autre, ça veut toujours désigner
puis,
ce que
je pense que c'est normal que dans la langue grecque, il n'y ait pas un mot précis qui traduit le verbe ressusciter. C'était pas dans leur...
Non, et de toute façon, c'est...
dans leur culture, quoi.
C'est faire relever, ressusciter. Relever, c'est même pas un nouveau mot, vraiment. Donc, ce que je vous propose, Claude, c'est qu'on parte du dialogue... de Jésus et de Marthe, puisque j'ai mentionné que les dialogues sont importants, c'est le plus long. Et c'est un très bon point d'ancrage pour réfléchir dans diverses directions à partir de ce dialogue vers d'autres moments du récit et d'autres paroles aussi.
Donc, ça démarre. Hein? Oui. Ça démarre avec un reproche discret de Marthe à Jésus. Hein? Et je cite dans le texte, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. »
C'est ça. Et cette idée... va revenir deux autres fois, on va l'entendre dans la bouche de Marie, et ensuite, comme question posée par les compagnons de Marie. Si Jésus avait été là, il aurait pu empêcher la mort de Lazare. C'est ça qui est l'idée de Marthe ici. Et c'est suggéré aussi au début du récit, puisqu'on appelle Jésus quand Lazare est malade. Hein. Ça donne l'impression que les personnages voient la mort comme la conséquence de la maladie. Et donc, une conséquence qui aurait pu être évitée par un guérisseur, par Jésus le guérisseur. Et je trouve que ça rejoint un point de vue qu'on entend aussi un peu aujourd'hui, bien que je ne sois pas une spécialiste de la question, mais c'est comme si la mort, on meurt parce qu'on n'a pas été guéri de telle maladie. Comme si, dans cette façon de voir, il y avait un certain déni de la mort... comme fin, tout simplement, fin normale de tout ce qui est vivant.
Autrement dit, le pauvre Lazare est est victime de maladie, et puis si Jésus était intervenu, il l'aurait guéri, il serait pas mort, et puis on veut pas aller plus loin que ça.
C'est ça. On sait bien que Lazare serait mort un jour ou l'autre, de toute façon, mais il y a implicitement, là, un refus de la mort comme la fin normale de tout ce qui est vivant, finalement. Et je suis pas certaine que ça, c'est le point de vue de l'évangile de Jean. C'est le point de vue de certains personnages du récit. Mm-hmm. Alors, et ce qu'on va voir, finalement, ce vers quoi je me dirige, c'est de montrer que pour ce récit-là, c'est pas la vie ou la mort, comme quand on dit une question de vie ou de mort. C'est bien la vie et la mort ensemble. Bien,
oui. Et ça continue.
Hein, oui,
c'est,
avec Marthe.
Marthe, et elle enchaîne en disant sa confiance en Jésus. Mm-hmm. Hein, et je cite, « Maintenant encore, je sais que Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. »
Oui, et donc, on pourrait dire qu'elle envisage déjà que Jésus peut ramener son frère à la vie. Je vois pas à quoi elle pourrait penser d'autre en disant « Dieu va t'accorder ce que tu vas lui demander ». De toute évidence, ça voudrait qu'il lui demande le relèvement de son frère. Alors, elle va plus loin que les autres, mais elle reste dans la même direction. Hein. T'as pas pu le guérir, mais il y a une super guérison là qui pourrait s'opérer. C'est comme si le relèvement de Lazare, ça va être le guérir de la mort. Hein. Ou donc juste inverser ou annuler ce que la mort a fait. Ça, c'est souvent la compréhension qu'on a du sens global du récit. Jésus nous ressuscite, c'est-à-dire il nous guérit de la mort après notre mort, donc, et ça annule la mort, et on le sait comment, on a comment la certitude qu'il fait ça, ben la preuve, il l'a fait avec Lazare. Si c'était ça uniquement que le récit voulait dire, à ce moment-là, le dialogue avec Marthe pourrait s'arrêter là, parce que c'est précisément ce qu'elle lui a demandé, donc elle y croit. Et on enchaîne tout de suite avec Jésus qui va au tombeau et qui fait sortir Lazare et qui annule la mort selon le désir des vivants. Mais on voit bien que le récit s'en va ailleurs. C'est pas ça qui se passe. Jésus va relancer le dialogue et va nous proposer donc de voir autrement, d'aller ailleurs, vers d'autres significations.
Oui, mais il va répondre, ton frère ressuscitera.
Hein? Oui.
Et c'est là que ça ouvre la porte à la foi juive de l'époque de Jésus.
C'est comme ça, en tout cas, qu'elle le comprend. Elle pourrait le comprendre autrement, mais on voit bien dans sa réponse qu'elle le comprend dans l'horizon de la foi juive.
Hein, oui, parce qu'elle dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour.
C'est ça. Hein? Elle croit donc...
Donc, c'est la foi juive.
Oui.
Enfin, d'une bonne partie du peuple juif, enfin, les pharisiens, puis...
La population, en général.
Croyait à la résurrection.
Oui. Mm-hmm. On le voit, par exemple, chez Marc au chapitre 12. Et donc, c'est la foi, quand on dit la foi juive, c'est bien la foi au même Dieu
absolument,
que nous. Hein?
Absolument.
Donc, moi aussi, je crois au Dieu qui relève les morts à la fin des temps. C'est même, je vous ferai remarquer, à la fin du credo chrétien, dans la résurrection de la chair et la vie éternelle. Donc, cette foi-là, elle est déjà présente dans le judaïsme au temps de Jésus depuis un peu plus d'un siècle. Et Marthe entend cela dans la parole de Jésus. Ton frère ressuscitera. Oui, mon frère va ressusciter au dernier jour. Ça la console pas. Hein, on voit bien. Ça suffit pas. Le récit suggère que ça ne suffit pas à nous consoler de la mort qui a fait éruption dans la vie maintenant.
Vous avez raison. C'est un petit peu comme si on risquait de tomber dans le petit catéchisme questions et réponses là, mais on touche pas à la douleur de cette femme là. Hein?
C'est ça.
On une petite discussion rabbinique quoi. Oui, je le sais. Il va ressusciter. J'ai bien appris mon catéchisme là.
Ouais. Mais on voit bien que le récit est prêt à prendre en charge non seulement le problème du fait que les gens meurent, mais du fait aussi que quand ça arrive, la mort rentre dans la vie des vivants, de ceux qui restent. Donc, le regard se déplace vers ce que la mort a produit pour Marthe et pour encore plus ce que la mort a produit chez Marie. Je dirais que le personnage de Marie incarne cet aspect-là de la mort. Dans le récit, le personnage de Marie sert à ça, à signaler la mort vécue comme un arrachement pour les vivants, une sorte de déchirure du tissu de relations humaines. On voit le chagrin de Marie. Elle dit à Jésus la même déception.
Autrement dit, on quitte Marthe et on rejoint Marie maintenant.
Et on reviendra à Marthe ensuite. Elle est comme l'autre aspect de Marthe, je dirais, Marie. Alors, elle est déçue comme Marthe. Elle le dit à Jésus, t'aurais pu empêcher ça. Mais on voit que Marie n'attend rien d'autre. Hein. Alors, il y a plusieurs manières quand on lit les commentateurs, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs manières de comprendre comment le récit utilise Marie pour faire avancer la réflexion du lecteur. Ma façon de le comprendre, qui est celle de quelques autres commentateurs aussi, c'est que Marie incarne l'aspect irrémédiable de la mort. Quand on admet la réalité de la mort d'un proche, c'est là qu'on plonge vraiment dans le chagrin.
Ouais. Elle est prostrée tout près du tombeau, elle.
Oui.
Puis
et elle admet qu'il
va
est
aller
mort.
Il va falloir aller la chercher, là. Hein?
C'est ça.
Mais parce qu'elle, elle l'admet.
Ce chagrin-là montre que, oui, la mort de son frère a de la réalité. Il n'y a pas de déni là-dedans. Et la présence aussi des gens qui l'accompagnent dans ce chagrin, qui donnent du support, qui représente, à mon avis, le travail de deuil, hein, qui doit se faire, qui n'est pas automatique, mais comment, finalement, la solidarité, comment dire, la vitalité affective, sociale, qui se mobilise autour de quelqu'un dont la vie vient d'être envahie par un événement de mort, ça se mobilise autour pour aider l'autre à porter le chagrin et finalement pour l'aider à vivre avec la mort. C'est pour ça que je disais, c'est pas la vie ou la mort dans le récit, mais la vie et la mort dans la vie, je dirais. Il n'y a pas de déni de la mort. Le récit prend bien acte, la mort est là, elle fait mal. Et un signe de ça, c'est que Jésus...
Jésus lui-même en est ébranlé. Il entre dans la douleur de ses...
Et donc, le narrateur nous le présente comme ça. Avec Marthe, il est différent, mais ici, il entre dans le même processus que Marie, dans le chagrin. Et le chagrin, il partage le chagrin de Marie et plus loin, lui-même pleure la mort de son ami.
Avec Marthe, il est plus un rabbin, rabbin qui discute théologie, vie après la vie. Alors qu'avec Marie, il est très très humain là.
Et il est atteint.
Il est atteint.
Lui-même, il est. On voit qu'il assume lui aussi finalement la présence blessante de la mort. Hein. C'est le chagrin du vivant qui est atteint par la mort. Le vocabulaire est fort. Dans le lectionnaire, c'est intéressant, c'est traduit que Jésus est bouleversé par une émotion profonde. En grec, il y a deux verbes aussi très forts.
En grec,
fort,
je pense c'est remué dans ses entrailles.
Il
frémit
dans son esprit. Non pas dans ses entrailles, mais dans son esprit. Okay. Ce qui est plus grave, parce que les entrailles, c'est le siège habituel des émotions. Quand l'émotion est rendue dans le pneuma, le mot qui est là, c'est esprit, c'est très, très, très ébranlé, finalement. Et il est troublé aussi.
C'est ça. Puis, il n'y aura pas des petites paroles de consolation, genre, t'en fais pas, il va revivre, il va ressusciter un jour.
C'est juste un moment difficile à passer.
Un moment difficile à passer, la petite tape dans le dos, puis tu sais, ça va être dur pendant quelque temps, mais bon.
Curieusement, Jésus serait bien le seul qui pourrait dire des phrases comme ça sans que ça sonne cru.
Ouais.
Puisqu'il peut relever Lazare et il va relever Lazare. Ça me paraît intéressant. Ça veut dire que la mort est là et ce qu'il peut faire, quoi qu'il fasse après, il n'y a pas de négation de l'effet pénible de la mort qui fait irruption dans la vie.
À la limite, on pourrait dire, t'en fais pas, je m'en occupe, quoi. Hein?
Mais ça marche pas.
Ça marche pas comme ça.
Ça marche même pas pour lui. Ça fonctionne même pas pour lui. Il fait pas semblant d'avoir du chagrin. Il en a. Alors, voyez, on peut pas dire que Jésus aurait pu empêcher la mort de Lazare. C'est une question que les amis de Marie se posent. Le récit suggère qu'on doit répondre non. Il ne peut pas, en vérité, empêcher la mort de Lazare. Plus largement, si je fonctionne au niveau de la signification plus générale du récit, Dieu ne peut pas en aucune manière nous éviter la mort, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'évite pour lui-même dans son expérience de l'incarnation.
Bon, puis de toute façon, Lazare va mourir une autre fois.
Exactement. Hein, ça n'est qu'un sourcil.
C'est ça.
Et c'est pourquoi on peut dire que cet acte-là ne peut être que signe d'autre chose, puisque ça ne règle rien de le sortir du tombeau, il va retourner.
Absolument, il va retourner quelques années plus tard. Hein.
C'est ça. Alors, donc, les vivants meurent. Le récit prend ça en acte. Les vivants meurent, ils ne sont pas immortels. Un autre indice que la mort n'est pas abolie dans l'optique du récit, c'est les nombreuses allusions qu'on trouve dans ce récit à la mort de Jésus. Hein. Puis je prends pour exemple le verbe « être troublé » qu'on a ici pour Jésus. Ça va revenir deux autres fois dans l'évangile de Jean et c'est lorsqu'il parle de sa propre mort. Il est troublé par la perspective de sa propre mort. Pour les gens qui voudront voir, c'est Jean 12, 27 et 13, 21. Et pourtant, on peut certainement pas penser que dans Jean, en tout cas, Jésus doute de la vie en plénitude que Dieu donne. C'est certainement pas parce qu'il doute de ce qui peut se passer après la mort qui est inquiet. Donc, même s'il continue malgré tout à être troublé par la perspective de sa mort, ça veut dire que la foi en la vie donnée par Dieu n'enlève rien à la mort comme une réalité tragique. Elle est autre chose qu'un mauvais moment à passer. Je ne mentionnerai pas les autres liens que le récit fait avec la mort de Jésus, mais c'est particulièrement clair dans la finale qui a été coupée par le lectionnaire, qui a parfois une pratique de happy ending, pardon pour l'expression anglaise, un peu comme les films
Hollywood. C'est vrai qu'il y a certains découpages dans le lectionnaire qui sont drôlement à remettre en question.
Alors, découpage et même traduction, parce qu'ici, ça se termine avec les nombreux juifs venus entourer Marie, virent ce que Jésus avait fait écrire en lui, alors que dans le texte, c'est parmi les juifs Plusieurs parmi les Juifs ont cru en lui. Et d'autres, et donc, ça va se terminer avec une réunion du conseil qui va décider la mise à mort de Jésus. Ceci étant la finale du chapitre 11.
Ça. Paradoxalement, ce relèvement de Lazare est le coup fatal qui va conduire Jésus à la mort.
Tout à fait. Donc, vraiment, la mort n'est pas évacuée par ce récit qui nous renvoie constamment à la véritable mort de Jésus. Dans ce sens-là, c'est intéressant de le lire dans le contexte du carême, qui fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il nous invite à comprendre ce récit-là dans la perspective de Pâques qui approche.
Bien, alors là, Jésus fait sortir Lazare du tombeau.
Oui, et donc,
comme vous disiez,
ce qu'on vient de dire,
un signe d'autre chose. Que la non-mort.
Alors,
finalement,
on est obligé de revenir pour savoir ce que ça peut vouloir signifier au dialogue entre Jésus et Marthe. Hein. On rappellera, Jésus lui avait dit « ton frère ressuscitera », elle a compris « ok, il va ressusciter à la fin des temps ». Jésus lui propose une autre signification.
Oui, et j'en fais lecture dans le texte. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et Marthe lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »
Ouais, c'est une magnifique confession de foi. C'est certainement la plus riche des quatre évangiles. Mais c'est pas évident de savoir à quoi elle dit oui, parce qu'elle reformule ce que Jésus a dit. Elle ne dit pas « oui, je crois en ce que tu viens de dire », elle ajoute. Il y a deux très clairs, en tout cas. Jésus parle de lui et il parle au présent. Hein? Et donc, il invite non pas à croire en un futur, une vie qui viendra, et il invite non plus pas à croire en un événement, je serai ressuscité, mais en lui et maintenant. Je suis le relèvement, la résurrection et la vie. Et Marthe répond bien sur ces deux traits-là par ce que Jésus est. Elle dit ce qu'il est et elle le dit pour maintenant. J'adhère à toi comme donneur de vie maintenant. Alors, la question, qu'est-ce que peut vouloir dire une phrase comme « qui croit en moi, même s'il meurt, vivra » on se doute bien que les verbes « mourir » et « vivre » et particulièrement « vivre » le vocabulaire de la vie veut probablement dire autre chose que la non-mort, puisque même quand on meurt, on vit. Donc, on est renvoyé à d'autres champs de signification. Je dirais que c'est comme une plus-vie. Hein? Il s'agit, dans l'Évangile de Jean, on trouve ailleurs des expressions comme la vie en plénitude, la vie éternelle, et on s'aperçoit que dans plusieurs textes, c'est pour maintenant. Nous, on entend la vie éternelle pour après la mort. Mais, par exemple, dans un texte comme 17:3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est maintenant. Je vis de la vie du Père, c'est maintenant aussi, c'est quelque part au chapitre 5, ou encore 5:24. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie, c'est maintenant. Alors, j'essaie de dire ça dans d'autres mots. Les mots qui me viennent, c'est comme s'il y avait en Dieu quelque chose de la vie de Dieu qui passe en nous. Hein. Dieu nous fait vivants, il fabrique du vivant, je dirais. La traduction habituelle de faire du vivant, c'est vivifier. L'esprit vivifie, par exemple, c'est toujours dans Jean. Mais je dirais aussi une vitalisation, un peu comme si la présence de Dieu nourrissait la vitalité intérieure, hein. Nourrit une autre vie qui est en nous, qui est, disons, une vitalité de Dieu en nous, qui nous permet de vivre avec la mort dès maintenant. Et quelque chose de cette vitalité-là qui est de Dieu, la mort ne peut pas le détruire, finalement.
Nous baignons déjà dans la vie éternelle, ici-bas, quoi.
C'est ça.
Et non pas après...
Quoi que cette formule puisse vouloir dire par ailleurs, je trouve pas ça évident. Je me dis, il y a quelque chose là d'assez mystérieux que personnellement je n'ai pas fini d'explorer.
Écoutez, c'est l'occasion pour moi d'annoncer une émission spéciale que j'aurai l'occasion de faire vendredi saint au matin, donc de 9h à 10h, avec je vais m'entretenir avec Thérèse Miron. Et justement, partant d'un deuil que j'ai personnellement vécu, on a réfléchi là-dessus finalement. Et je peux vous dire tout de suite que la conclusion, c'est que par nos propres facultés, par nos propres forces humaines, notre propre intelligence, on ne peut pas expliquer comme un théorème cette vie éternelle
qui est déjà ici maintenant.
Nous baignons déjà.
À la limite, on n'a pas trop de mal à imaginer la vie éternelle, mais qu'elle soit ici et qu'elle nous vitalise ici maintenant. C'est beau. C'est beau et mystérieux, je dirais. Et ça donne envie de vivre, en tout cas.
Voilà. Ouais. Eh bien, vous avez écouté Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Nous allons nous entretenir ensemble encore samedi prochain sur le dimanche des rameaux. Je ne sais pas encore sous quel angle, mais nous allons être ensemble. Et j'annonce tout de suite que le vendredi saint, au matin, de 9h à 10h, j'aurai eu cette émission spéciale sur la mort. Sur ce, mes chers amis, nous vous souhaitons une très bonne fin de semaine à notre antenne et je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. C'est Claude Julien qui vous parle.